Mercredi 10 mai, Radio Grenouille était au mercredi de Montevideo pour la rencontre avec l'auteur, plasticienne et vidéaste Valérie Brégène. Une rencontre à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage aux éditions POL, Troisième Personne. Troisième Personne fait suite à d'autres ouvrages de facture littéraire publiés chez Alia et POL. À Marseille, on a pu la voir à de nombreuses reprises au festival Actoral, et elle a notamment réalisé un documentaire en 2008 à l'hôpital psychiatrique Valvert. Troisième Personne, livre de facture littéraire. Avec ce livre, Valérie Brégène poursuit sa collection de souvenirs. De quoi s'agit-il ? D'une expérience partagée par de nombreuses femmes, la maternité. C'est que Valérie Brégène part toujours d'événements partagés par beaucoup. Comment, dans ce qui nous arrive, s'y déploie du déjà dit, du déjà vécu, de la répétition. Il y a une étrangeté à même le familier. L'émission est en deux temps. Lecture d'extrait du livre Troisième Personne par Valérie Brégène, suivie d'un dialogue avec elle. Radio Grenouille, au mercredi de Montevideo, avec Valérie Brégène.
Une chambre. De part et d'autre de la table en bois, deux fauteuils confortables pour les visiteurs. Depuis la fenêtre, on voit que les volets roulants des immeubles en face sont baissés. Le quartier est désert pendant les mois d'été. Au milieu de la pièce, un lit articulé et sa commande reliée par un câble. En face, accroché en hauteur, un poste de télévision en veille. Une table à roulettes en métal pour les plateaux repas. Quelques affaires éparses, des vêtements de plusieurs tailles, du linge. L'enfant, le père, la mère, un chauffeur de taxi, des dames en blouse, la personne de l'accueil, une voiture neuve, le soleil aveuglant, la scène. Le mode d'emploi schématisé est fait pour être compris du premier coup d'œil par l'utilisateur, quelle que soit son intelligence et son niveau de sens pratique. N'importe qui doit normalement être en mesure d'assembler le harnais sans se tromper. Pourtant, les dessins avec flèches et pôles contraires, conçus pour s'emboîter naturellement, lui semblent d'une complexité considérable. Elle passe ses bras dans des bretelles qui pourraient être celles d'un parachute. Les petites jambes emmaillotées dans une combinaison intégrale en tricot sont à présent suspendues dans le vide. Il s'assure plusieurs fois que tout est bien fixé avant d'amorcer le mouvement. Les sacs qu'ils avaient pris à l'aller sont fermés. Ils attendent le feu vert d'une personne du service. Pendant 6 jours, elle a passé son temps à essayer de ranger la pièce en déplaçant des tas irréguliers d'une surface à l'autre, des piles de vêtements minuscules qu'elle ne s'est pas encore pliées, en équilibre provisoire, gilets croisés en mailles si douces qu'ils glissent inexorablement, grenouillères jalonnées d'une série de boutons pression dont il faut repérer les emplacements et bien garder en tête que pour les ajuster, patience et discipline seront les bienvenus, mais ne dispenseront pas de devoir s'y reprendre à plusieurs reprises. Il remercie les dames en blouse. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Il y a une évidente disproportion entre la reconnaissance éternelle qu'il porte désormais à ses sages-femmes et l'affabilité professionnelle, chaleureuse mais professionnelle, dont on les gratifie au moment de partir. Ils connaissent leurs prénoms, ils aimeraient les embrasser, noter leur numéro de téléphone, promettre qu'ils se reverront. Pour eux, ce moment est le seul, ils se souviendront de nombreux détails. Pour elles, cela fait partie des affaires courantes. Ce sont des parents qui repartent avec leur nouveau-né. Longtemps encore, la jeune mère aura presque envie de revenir leur dire bonjour, de passer avec son enfant une ou deux fois par an, l'enfant sachant sourire, sachant marcher, sachant parler, pour leur donner la possibilité de suivre son évolution et de se pâmer devant le prodige. Ils ont descendu les 5 ou 6 marches qui séparent la chaussée de l'établissement. L'homme ouvre les portières de son taxi, un monospace noir et brillant, dont la carrosserie bombée reflète, telle une lentille optique, l'image anamorphosée des immeubles, des bâtiments autour et d'une partie du ciel, et dont les reliefs courbes attrapent les rayons du soleil pour les renvoyer sous forme de flash. La rue entière semble vouloir se pencher sur les ailes étincelantes du véhicule et se contorsionner afin d'apercevoir un peu du jeune visage, avant que les portières ne se referment. Les lampadaires, les façades ravalées, les portes à digicode, les quelques arbres et les panneaux de stationnement dévoilent ainsi leur vraie nature. Ce sont des fées, souples comme des roseaux et curieuses comme des chouettes. Le chauffeur dit « Je suis heureux, je suis le premier qu'il verra ». Il, c'est la petite fille. Les fauteuils en cuir coquille d'œuf sont amples et confortables. Ils dégagent une odeur de neuf, mélange d'air pressurisé de cabines d'avion et d'équipements électroniques tout juste sortis de carton. Câbles attachés par des fils de fer gainés de plastique, autour desquels de petites poches thermocollées restent hermétiques jusqu'à la nécessaire rupture. Elle prend le temps de s'installer et, pour la première fois, attache sa ceinture à l'arrière d'un geste protecteur et décidé, sans qu'on le lui demande. Ils indiquent leur adresse et, tout en prononçant ces mots durablement inscrits en eux à force de les dire, tandis qu'ils détachent les nombreuses syllabes toujours un peu récalcitrantes de 170 bis, en essayant de dissocier le 10 du bis pour éviter d'avoir à répéter, ce qui s'avère pourtant nécessaire la plupart du temps, ils entendent soudain ce refrain sonner un peu différemment, comme renouvelé et relancé dans l'espace de la grande voiture, par la présence des oreilles miniatures qui ne peuvent pas encore saisir le sens des mots, mais sont de fait concernées par l'information. Voilà où nous tournons, c'est là que tu vas habiter. La voiture traverse paisiblement les rues silencieuses du quartier de la Muette. Quelques rares passants marchent d'un pas régulier, vont d'un trottoir à l'autre, en veste bien coupée, en pantalon à pinces et mince revers cousu, en mocassins bateau et polo de couleur pastel. Ils se croisent sans se regarder, comme des figurants expérimentés, habillés en coulisses par une costumière appliquée, fidèle jusqu'au moindre détail à son cahier des styles. Après ces quelques jours passés dans la petite chambre aux teintes coordonnées, avec pour seule option de promenade l'ascenseur au bout du couloir, elle éprouve une véritable euphorie à voir des gens libres de leurs mouvements, des chiens au bout de leur laisse, des visages inconnus qui chacun, individuellement, représentent un peu du fameux, de l'éternel, du mystérieux homme de la rue. Pendant 6 jours, son œil s'est posé sur le mobilier et sur les 4 murs. 2 fauteuils jumeaux chocolat, aux coutures surpiquées, un poste de télévision suspendu au-dessus du vide, une table à roulettes pour plateau repas, toujours maladroitement placée au milieu du passage et jamais réglée à la bonne hauteur. Un manche articulé fixé assez haut sur le mur et défiant la gravité pour supporter le poids de l'écran 16/9. Écran totalement plat, mais pas parfaitement noir, jamais complètement éteint, prêt à se rallumer à la moindre pression du doigt, sur la touche d'une télécommande, cette extension du bras tendu qui donne l'illusion gratifiante d'exercer un pouvoir souverain sur les appareils de Hi-Fi. Des bruits de téléviseurs allumés dans les chambres voisines laissaient présupposer que quelques jeunes mamans étaient en train de bercer leur enfant, le regard absorbé par ces images factices et sans doute déformé par le cadre panoramique. Peut-être voyait-on, pendant les spots publicitaires, des bébés internationaux sourire avec toute la bonne volonté de l'orage pour essayer de susciter l'envie d'acheter un assouplissant senteur printanière ou des rouleaux de papier extra doux. Son esprit est captif. Elle vérifie à chaque instant que l'enfant est réellement là, que tout cela est bien certain. À travers les petits yeux noirs ou bleus très sombres comme les fonds marins, elle se sent perçue comme une vraie mère. Cela suffit pour endosser son nouveau rôle avec un naturel qui la surprend. Quelques années plus tôt, en remontant assez loin en arrière, il lui était arrivé plusieurs fois de contempler des heures durant un objet désiré, rêvé et enfin obtenu à force de supplications, le plus souvent un habit ou un accessoire que ses parents, lassés, avaient finalement consenti à lui acheter. Elle y avait pensé à longueur de journée en formulant des sortes de prières, s'était imaginé portant telle chemise militaire ou telle besace en toile, avec la conviction que ces vêtements, par leur vertu extraordinaire, allaient la transformer en être neuf et irradiant, lui permettre enfin d'intégrer le cercle ultra-sélect des modèles à suivre. Elle s'était vue portant les ballerines irisées repérées chez une camarade et aussitôt convoitée pour lui ressembler. Elle s'était arrêtée longuement, matin, midi et soir, devant la vitrine d'une rue commerçante, où était présenté un par-dessus asymétrique de teinte mastique, que son prix élevé rendait inaccessible et par là même encore plus attirant. À présent, cet état de fascination pure lui rappelle ce temps-là. Les heures passées à ouvrir de nouveau une boîte, à la fermer en écoutant le clic, à extraire l'objet de l'écrin, à le regarder pour la centième fois, à s'y arrêter, à y revenir, à admirer sans fin la forme d'un nouvel atour venu s'ajouter à sa collection. Il devait être 6 heures du matin le troisième jour. Une sage-femme est entrée, poussant devant elle le berceau transparent, et les petites billes noires ont transformé l'endroit, ont empli la chambre de leur présence, une présence nouvelle qu'on n'attendait plus, qu'on avait attendue une partie de la nuit. À cet instant, la mère a compris qu'elle avait été solidement harponnée, qu'un fil translucide ultra-résistant la reliait à son enfant. Un fil qui pouvait être estampillé d'une de ces marques aux sonorités phonétiques si naïvement charmantes dont elle s'amusait à collectionner les noms au gré des trouvailles sur les stands de puces. Qui dure, résiste à tout, c'est du robuste. Le soleil éclaire les immeubles, le feuillage vert jaune des platanes, la surface de la Seine dont les soubresauts électriques font surgir à la chaîne de petites vagues nerveuses. L'eau en mouvement reflète la lumière aveuglante. Les gouttes qui naissent de cette danse énergique forment des nuées de paillettes scintillantes comme celles qui inondent les pupilles de Lolita des mangas japonais. Les couleurs paraissent plus intenses, plus profondes, plus joyeuses. Même le vert éteint des lodens et la teinte feuille fanée des manteaux en poils de chameau. Le bleu sévère des vestes matelassées. Les voitures semblent avoir été polies par un même chiffon sec. L'écorce ton sur ton des arbres alignés tout le long des quais se fond dans une superposition d'écailles en état de mue permanente. Et d'immenses marronniers étendent leurs ramifications qui porteront bientôt des fleurs vaporeuses montées en cascade. Seront-elles roses, seront-elles blanches? On ne peut le savoir avant leur éclosion. Le petit être aux mains ridées se tient blotti et peut-être endormi, la tête cachée par le haut col de la poche en tissu qui sert à le porter. Les yeux fermés, le nez appuyé contre la poitrine, bercé par le mouvement et les bruits du dehors, il ne voit pas le paysage urbain qui défile à travers la vitre. Cela commence par des façades d'immeubles le long de la Seine. Le fleuve prend plus de place ici que dans d'autres quartiers. Les larges baies vitrées aux étages élevés laissent deviner des panoramas inédits, la nappe fluviale, l'horizon sans limite. Depuis là-haut, le point de vue doit être idéal, se disent intérieurement bon nombre d'habitants de la ville, habitués aux cours exiguës et aux fenêtres en vis-à-vis. En regardant ces vitres immenses, elle devine l'apaisement que procure la présence du ciel, l'étendue dégagée, le glissement muet des péniches. Chaque soir, les voies sur berge évoquent une retraite au flambeau, blanc d'un côté, rouge de l'autre, et par moments, l'avancée lente d'un bateau-mouche muni de projecteurs puissants balaye les façades plongées dans le noir et irradie les plafonds des appartements. De la rive droite, on aperçoit un grand nombre d'immeubles d'une dizaine d'étages derrière lesquels se superposent les toits, des vasistas et des dômes à écailles percés de fenêtres en médaillon, comme les yeux d'un poisson, et derrière, les cheminées couronnées de cylindres en terre orange, les tours à motifs sériels du XVe. Les bateaux sur la Seine, les ponts, un ciel d'azur, des cartes postales en couleur. L'eau épaisse et boueuse n'a jamais semblé aussi pure. Quelqu'un, bientôt, va découvrir ce paysage. Ses yeux ne sont pas encore tout à fait au point. Il est trop tôt pour le moment dans la voiture, mais tout ce qui défile est bien en place et sera là encore un bon moment, encore quelques semaines, voire quelques décennies, pour être observé, détaillé, admiré, contemplé. Et toutes ces choses l'attendent sans hâte, sans le savoir. Elles vivent leur vie, quoi qu'il arrive. Elles se déplacent et évoluent. Elles changent et ne changent pas. L'œil se livre à un jeu qui consiste à repérer, parmi les hautes fenêtres des immeubles anciens, les rares carreaux ayant tenu le coup jusqu'à présent. Les vitres d'origine, en verre soufflé, reconnaissables à leur surface légèrement irrégulière et aux toutes petites bulles à jamais figées dans la masse. Le contour de chaque feuille se découpe avec précision sur le fond bleu du ciel et les boules de poils à gratter, appelées akènes, se détachent bien distinctement. Elles penchent vers nous, c'est-à-dire vers le vide, comme vu à travers des lunettes 3D. La femme observe l'extérieur avec une attention nouvelle, comme si le voile presque invisible qui s'était tissé au fil de ces dernières années avait disparu de lui-même. Elle revoit ses voilages accrochés aux fenêtres des appartements bourgeois dans lesquels ils vécurent à l'ouest de la capitale. Malgré tout ce qui pouvait diviser ses parents, ils s'accordaient finalement assez bien sur les questions d'aménagement et avaient fait poser, selon leur goût commun, de grandes tringles en aluminium qui produisaient un bruit de rail lorsqu'on tirait sur le cordon, décalant toute une troupe de dominos serrés en ordre régulier. Pour laisser un peu de soleil entrer, il fallait actionner l'une des ficelles en essayant à l'aveuglette, car rien ne les différenciait, et amorcer le plus souvent l'ondoiement souple du double rideau qui n'attendait que ça car on le sollicitait moins, puis recommencer à nouveau. Les voilages presque transparents laissaient percevoir l'extérieur mais filtraient la lumière du jour, dressant entre les occupants de la maison et la grande avenue haussmannienne une couche de synthétique laiteux, un calque entre l'espace public et l'intérieur qui accentue encore l'absence de luminosité lorsque le ciel était uniformément blanc. Aucun personnage caché en coulisses n'a frappé les trois coups pour annoncer l'apparition de ce nouveau décor, pourtant presque identique au précédent. Quelque chose a bougé. Les meubles, le plancher, les objets, les affaires, tout est bien à sa place, mais la perception a changé. Entre le jour où ils sont partis en panique et celui où ils rentrent, pas beaucoup plus placides avec leur nourrisson, ils emménagent pour la deuxième fois dans le même espace. Après 6 jours d'absence, elle découvre avec étonnement la disposition de l'appartement, les obliques dessinées par le soleil à travers les fenêtres, la dimension des pièces, les proportions d'un meuble à porte coulissante. Cette impression de renouveau lui rappelle vaguement les retours de vacances lorsque la voiture empruntait les rues du 17e arrondissement après de longs séjours d'été à la campagne et que le trajet habituel, depuis le périphérique intérieur jusqu'à l'entrée de leur parking, la surprenait parce que toutes les affiches avaient été remplacées aux arrêts de bus et que les arbres avaient changé d'aspect. Sur les grosses branches noueuses régulièrement élaguées à la tronçonneuse, les moignons implorant le ciel, un feuillage vert acide avait poussé et débordé de tous côtés, épanoui comme une crinière hirsute sous l'effet du soleil. Quelques semaines avant la date prévue, ils avaient commencé à rassembler des équipements, à récolter chez des amis dont les enfants sont déjà grands, un lot d'affaires conservées dans les caves ou en hauteur dans des placards. Ils ont profité de ces occasions pour apprendre de nouveaux mots, qu'ils tentent quelquefois d'introduire dans les conversations, autant pour s'y accoutumer que pour voir si les autres en ont l'usage aussi. Grenouillère, turbulette. J'ai dans mon sac une turbulette. Certains ne relèvent pas et poursuivent le cours de l'échange car ils voient tout à fait ce dont il est question. D'autres, au contraire, font des yeux étonnés et demandent de quoi il s'agit. C'est un sac de couchage, vois-tu, ajusté avec des bretelles pour que l'enfant ne se découvre pas la nuit. Ils ont dégagé quelques étagères occupées depuis des années par des classeurs, de grosses boîtes de rangement saturées de papier qu'il vaut mieux ne pas jeter au risque d'en avoir justement besoin le soir même. Mode d'emploi d'appareil, contrat, garantie, comptabilité. Ils ont déplacé ces archives un peu plus en hauteur, ne sachant pas dans quelle trappe idéale les reléguer pour les oublier une bonne fois tout en les gardant à portée de la main. Ils cherchent à éviter l'enchaînement d'une série de gestes dont la seule pensée les épuise à l'avance. Décrocher l'escabeau, le déplier en faisant attention, le transporter dans le couloir sans trop cogner les murs, le remettre à sa place au milieu des manches à balai, prêt à dégringoler. Dans la buanderie baignée de chaleur humide, un tas de linge occupera désormais l'espace en attendant d'être plié. Il recèlera l'incroyable capacité, par son irrésistible pouvoir d'attraction, de vous détourner à toute heure d'autres tâches plus urgentes. Sur les étagères ainsi déblayées, elle a posé les premières pièces d'une garde-robe non encore activée. Les vêtements soigneusement rangés comme derrière une vitrine, portent en eux le présupposé de remplir bientôt leur office. Ils prendront leur fonction dès l'apparition sur la Terre du nouveau corps à leur mesure. Elle s'appuie sur cette base tangible et sur l'absence de doute que la plupart des gens semblent éprouver face à son ventre gros pour s'en convaincre elle-même. Les petits chaussons de poupée envelopperont bientôt des menus doigts de pied. Ce n'est qu'une question de jour, et ce jour-là a vraiment l'air d'arriver à grands pas, si l'on en croit l'inexorable succession de ses nombreux prédécesseurs qui se sont suivis sans se ressembler. Pour le moment, rien n'est plus sage et silencieux que les débardeurs en coton qu'on n'a pas envie de mettre en désordre, rangés par taille et par couleur, sans un faux pli, sans une peluche. Ce bref anachronisme est nécessaire pour ne pas être pris de court, pour que l'enfant puisse être vêtu dès qu'il sortira. Il sortira, c'est dans l'ordre des choses, et il sera tout nu. Des effets personnels occupent donc déjà ses placards, comme si des malles de voyage l'avaient précédé. Lorsqu'elle remplit le sac avec les affaires demandées par la clinique dans une liste standard, elle se sent comme un imposteur, quelqu'un qui commettrait ce qu'elle a toujours entendu considérer comme une coupable imprudence, un péché d'optimisme et de trop grande sûreté de soi. Avoir mis la charrue avant les bœufs, avoir vendu la peau de l'ours avant de le chasser. Elle avait éprouvé la crainte d'annoncer trop tôt l'événement, de provoquer par sa joie impatiente un revirement négatif du destin. Il faut être discret, recommandent les médecins. Pendant 3 mois, tâchez de garder votre langue. Ils ont de l'expérience, ils savent que rien n'est sûr et qu'une issue malheureuse est possible. Elle a déjà eu l'occasion de vérifier le bien fondé de cette réserve lorsqu'il fallut faire une désannonce quelques semaines après avoir soulevé des hurrahs dans leur entourage. Dans une boutique de tongs, seule chaussure qu'elle pouvait encore porter au fur et à mesure que la chaleur estivale augmentait, et avec elle sa circonférence de cheville, la vendeuse lui avait offert une aumônière porte-bonheur à ne surtout pas ouvrir avant la naissance. Elle avait conservé, cachée tout au fond d'un placard, cette variante inversée de la bombe à retardement, menace par anticipation qui ne semblait conçue que pour tester sa résistance à la curiosité. Des conséquences fâcheuses pouvaient découler de la tentation d'entrevoir avant l'heure le contenu de la pochette. On risquait d'attirer le mauvais œil ou d'infliger un préjudice à son enfant, ou d'être changé en statut de sel et par conséquent, châtiment suprême, de faire encore plus de rétention d'eau. Après l'arrivée de l'enfant, ils s'amuseront régulièrement à se tester l'un l'autre, à formuler des interrogations sous forme de défis. Avant, comment se passaient les journées? Quel était notre emploi du temps? Par jeu, ils essaieront de retrouver la mémoire immédiate de ce passé pourtant déjà loin d'eux, de se glisser un bref instant dans leur ancienne peau de jeunes gens. Ils ne savent plus comment c'était de n'être responsables que d'eux-mêmes. Ils se questionnent, mais ils ne peuvent revivre cet état comme on enfilerait un vieux vêtement retrouvé par hasard. Bientôt, ils verront que l'enfant aussi connaît des phases de retour en arrière, des sursauts nostalgiques. Ils assisteront étonnés à quelques tentatives désespérées de rétrogradation. Pourquoi essaye-t-elle de se glisser dans son premier couffin devenu trop étroit? Cela provoque une crise de rage parce que les jambes ne rentrent plus, que la tête dépasse elle aussi, comme si elle essayait de se cacher intégralement sous un mini mouchoir de poche. L'effort mental qu'il faudrait faire ressemble trop à une tentative d'effacement. Ils ne veulent pas, même en pensée, devoir la faire disparaître une seconde, et pourtant, ils se demandent bien comment était leur vie il y a encore 2 mois. De toute façon, la sidération est trop grande pour arriver à effectuer cette simulation du passé. Leur esprit, désormais, est occupé par cette sidération. Quelques images arrivent dans le désordre, impressions, bribes, rangées sans logique apparente. Il y en a un nombre fluctuant, des empilements, des juxtapositions. Bien sûr, l'enfant petit agit comme un révélateur. Ils pensent à des situations dont ils ne peuvent eux-mêmes se souvenir. Ainsi, mes parents, jeunes mariés, ont effectué ces gestes, ont eux aussi eu peur de mal s'y prendre, ont été inquiets, fascinés, ont appris dans l'action. Ils se sont réveillés la nuit, ont pris sur eux pour essayer de garder les yeux ouverts, ont fait au mieux pour chanter des berceuses d'une voix désaccordée. Eux aussi ont vécu en permanence avec au bout du bras une serviette en papier, un linge ou une éponge. De quoi absorber les fluides ayant fait demi-tour pendant leur progression vers l'estomac, les petites formations visqueuses constellant le plancher, les épanchements issus de gestes encore mal mesurés. Eux aussi ont sans doute récolté à genoux les grains de riz éparpillés par terre. Ils ont failli perdre patience, nous ont prévenus une fois, deux fois, trois fois, et se sont vus contraints, malgré leurs idées progressistes et leurs intentions non violentes, à se faire comprendre à la fin en nous administrant une claque. Ils se sont sans doute sentis mal après. Ils ont maladroitement essayé de réparer les gestes impulsifs par des mots. Ils nous ont bercés, consolés, et nous les avons vus un peu comme des héros. Lorsque le père rentrait le soir avec sa serviette remplie de dossiers, nous courions en hurlant de joie depuis l'autre bout du couloir. Ces scènes-là, aujourd'hui, paraissent presque inventées. Le taxi roule le long des quais et elle admire le moindre réverbère avec les yeux d'une touriste enivrée. Les oiseaux citadins, miteux et claudiquants, les papiers gras collés aux bouches d'aération, elle est en pâmoison devant le décor qui défile. Elle voudrait tout embrasser du regard, retenir chaque image. Elle se demande si cet émerveillement peut se communiquer par contact physique au petit enfant qui somnole. Elle veut garder un souvenir de tout ce qu'elle voit, les balustrades, les grandes façades qui s'élèvent le long de la Seine, comme des falaises en pierre de taille, les stores oranges, les stores bleu roi, les rideaux jaunes, les voitures qui avancent de part et d'autre et leur donnent l'impression d'appartenir à un mouvement commun. Des bus, des camions, des taxis, des véhicules de nettoyage de la voirie avec leur balai concentrique au ras du sol et un mince filet d'eau qui n'en finit pas de couler. Des mobilettes de livreurs lancées à tombeau ouvert qu'un panneau fixé sur leur coffre invite à dénoncer par un « Que pensez-vous de ma conduite ?» Bicyclette équipée d'un fauteuil enfant en plastique moulé, scooters capsules conçus comme des habitacles solides pour hommes d'affaires en costume sombre et parka intégral assis sur du cuir fauve. Enfin, une camionnette de jardinier hérissée de râteaux rangée la tête en haut et de ramasse-feuilles crochues comme des doigts de sorcière. Ils sont pris dans le flot. Une intuition lui fait deviner qu'il faudra d'ici peu être en mesure de fournir des explications. Un nombre exponentiel d'éclaircissements et d'exposés sur la réalité qui nous entoure. Des réponses claires sur l'attraction des corps entre eux, sur la distribution des conditions de l'atmosphère terrestre, sur le système solaire, le parallélogramme des forces, la perception visuelle de la répartition spectrale de la lumière, des phénomènes qu'elle connaît plus ou moins intuitivement, mais dont elle a conscience que l'origine scientifique lui échappe. Toutes ces questions lui feront prendre la mesure de son ignorance dans beaucoup de domaines. Ses réponses ne seront pas toujours très claires ni convaincantes et elle sera troublée par l'opiniâtreté indéfectible de l'enfant, le retour incessant de ses demandes réitérées comme si l'explication fournie n'avait pas satisfait. Son utilisation occasionnelle d'un définitif « c'est comme ça » n'aura pas pour effet de clore l'affaire une fois pour toutes et ne fera qu'alimenter la cascade d'interrogations. L'enfant aura toujours le dernier mot. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Cela arrivera plus vite qu'elle ne le pense. C'est une vérité qu'on lui répétera souvent, dans les transports, au marché, dans la rue. Ça va trop vite, profitez-en. Profitez-en, ça va trop vite. Quelquefois teinté d'une nuance amère, liée sans doute à des déceptions. Il faudrait que ça reste tout le temps petit. Tout de suite, elle voudra ressortir, poser le pied dehors, munie de la poche harnais matelassée, bien fixée aux épaules et autour de la taille, pour transporter la nouvelle arrivante, dont on peut voir les mains flotter dans l'air de part et d'autre et remuer les doigts comme en apesanteur. Ses extrémités minces, toutes plissées et marbrées, aux ongles exagérément longs. Il est prudent d'attendre au moins un mois, disent la plupart des forums consultés, avant de couper ces jeunes griffes encore trop élastiques. C'est en accomplissant les premières fois cette opération délicate que la mère, soit dit en passant, verra le temps venu de commencer à porter des lunettes. Elle voudra s'élancer à travers les rues et se sentir aussi brave qu'une figure de proue. En franchissant le porche de l'immeuble, avant de se retrouver au grand air, elle entendra l'enfant prendre une immense inspiration comme avant de sauter dans le vide, un son aigu venu du ventre et filant vers le haut, un sifflement pyrotechnique à peine audible au milieu des bruits de moteur, des voix, du bip d'ouverture de la porte. Elle sera seule à entendre ce que la fonction enregistreuse d'un téléphone, même très intelligent, n'aurait sans doute pas pu restituer fidèlement ni isoler de la rumeur ambiante. Le premier trajet qu'elle fera à son retour de la clinique sera pour aller au grand magasin, rayon hygiène et habillement. Elle arpentera le trottoir de son vieux faubourg devenu trop familier à force de répétition des trajets quotidiens, mais elle sera cette fois dans l'état euphorique d'une voyageuse tout juste arrivée de l'aéroport, débarquée au centre d'une ville et partie explorer à pied les environs de son hôtel, le cœur gonflé d'excitation, enivrée par le changement d'air, les impressions nouvelles et la foule animée. Elle verra le soleil se refléter dans les vitrines, les silhouettes des passants se découper en contre-jour, les bacs de marchandises à prix cassés débordant de chaussures. Elle se sentira libre, altière et souveraine en allant au supermarché pour y acheter une gaine de grand-mère couleur chair bien ajustée au-dessus du nombril. Les petites mains attireront d'autres mains constellées de taches de vieillesse, des pouces fripés, des phalanges tordues par l'arthrose, des annulaires ornés d'alliances portées pour la première fois 50 ans plus tôt, de doigts majoritairement féminins qui viendront prestement établir un contact avec le poignet rebondi, comme pour saisir un peu de sa jeunesse, intercepter une once de ses ondes bénéfiques. Elle entendra quelquefois dire « j'ai les mains propres ». Cela signifiera « ne vous inquiétez pas, je connais, je suis avisée, je sais qu'il faut veiller à limiter la libre circulation des saletés, la danse des bactéries qui volent partout dans l'air, invisibles à l'œil nu ». Vous savez, j'ai tant de petits-enfants, alors je sais ce que c'est, et d'ailleurs je joins maintenant le geste à la parole, après vous avoir rassuré sur mon hygiène de vie. Je peux sans crainte faire une petite caresse. Tout le monde ne sera pas aussi précautionneux. La mère prendra sur elle, devant les doigts crasseux, les ongles noirs, les bouches pas nettes de ceux qui se précipiteront pour embrasser l'enfant dans un élan de spontanéité. Elle adressera un sourire mitigé à l'un des gaillards du marché, colosse au front bas et aux yeux étranges lorsqu'il dira « Moi, j'adore les bébés ». Elle aussi un jour répétera cette phrase « Ah oui, je sais ce que c'est ». Signe d'appartenance et de reconnaissance avec le reste des parents. Une formule qu'on prononce en hochant doucement la tête, l'air héroïque et la paupière tombante, une façon de se plaindre tout en étant fière, de partager implicitement une expérience que seuls ceux qui sont passés par là peuvent comprendre. Cela conforte, on se sent moins désemparé. Ainsi, vous aussi, vous êtes exténué. Donc je ne suis pas le seul à friser la crise de folie, à avoir senti l'exaspération monter. Vous aussi, vous avouez. Elle participera à des conversations où il sera question de l'attraction tactile qu'exercent les petites mains d'enfants, mais aussi le ventre des femmes enceintes. Certaines, catégoriques, se souviendront qu'elles ne supportaient pas. Elles diront « Les gens se permettaient de me toucher comme si mon corps était public. Des passagers dans le métro, de parfaits inconnus, des membres de ma belle famille. On me posait carrément les deux mains sans me demander mon avis. Elle, au contraire, doit dire qu'elle n'a pas détesté cette soudaine familiarité. Elle était même plutôt flattée qu'on la considère comme une amulette, d'avoir le même succès qu'un pompon de marin ou qu'une table en bois. Elle éprouvait soudain ce dont ne pourront jamais témoigner les gisants dans leur basilic, le boutoir porte-chance du petit sanglier en bronze, les excroissances des statues lustrées et polies par d'innombrables paumes. Elle était très émue devant cette fascination primitive pour le corps féminin en état de métamorphose. Le réflexe enfantin de vouloir toucher pour y croire. L'émerveillement était constant, toujours recommencé. Comme si ce phénomène, pourtant vieux comme le monde, ne pourrait jamais devenir banal. Une fois franchie la ligne sans retour vers le monde extérieur, lorsque le futur être est passé au présent, l'étonnement continue, mais d'une autre manière, en croisant les regards des passants dans la rue. Elle constate en effet un bond très net du nombre de sourires et d'œillades bienveillantes glanées à la moindre sortie, un regain d'intérêt qui, avec le recul, lui fait penser qu'on la considérait peut-être comme quelqu'un de louche, de vaguement égoïste et sans doute peu recommandable. Sa voisine du dessous, avec qui les rapports tendus s'étaient jusqu'à présent limités à des criailleries, lorsqu'un surplus d'eau goûtait sur ses plantes, en vint même à sonner pour remettre un cadeau. La dame, âgée et un peu sourde, n'en finissait pas de se réjouir et de féliciter les jeunes parents, de leur rappeler à quel point ils étaient chanceux et comme elle aurait aimé, elle aussi, mettre au monde une fille. Cela finissait par devenir étrange, car elle répétait inlassablement. « Ah, vous en avez de la chance, c'est une bonne nouvelle. Oh, J'aurais tant voulu avoir une fille. C'est pour une mère, c'est ce qu'on peut rêver de mieux. Mais voilà, j'ai eu un garçon. Qu'est-ce que vous voulez, hein ? On ne choisit pas. C'est comme ça. C'est la vie. Vous avez de la chance. Hein ? C'est un beau bébé. Elle est belle. Hein ? C'est une belle poupée. Sa voix aiguë de Titi Parisien, portée au maximum de son volume, résonnait dans le hall et les couloirs à faire trembler les morts. Et chaque fois que les jeunes parents, après avoir poliment acquiescé et souri benoîtement, refermaient la porte palière, ils avaient une pensée discrète pour le fils unique de cette femme, un homme sans doute déjà âgé, pour qui ça n'avait pas dû être drôle tous les jours d'entendre jusqu'à maintenant exprimer autant de regrets. Elle découvre, chez une grande partie de la population, une inclinaison commune à l'attendrissement, une promptitude à distribuer des sourires bienveillants, l'envie d'établir une complicité fugace au milieu de la rue, sur un quai de métro, au café, n'importe où, ou à vouloir développer les échanges par des concours d'imitation et de mimique dont aucune des parties ne semble se lasser. Lorsqu'il faudra lever le camp, le parent trouble fête, pressé par un rendez-vous plus ou moins fictif, suggérera d'adresser un au revoir et l'enfant agitera la main encore un bon moment, le plus longtemps possible, jusqu'à la disparition de son champ de vision, dans son champ de vision de l'adulte joueur. Il marche sur la grève, à côté des galets. Les deux cabanes de pêcheurs concurrents, disposées côte à côte, sont vides. Tous les matins, si les conditions le permettent, les deux équipes viennent vendre leur marais. On aime montrer les poissons aux enfants, les hisser à hauteur des bacs, pour leur faire découvrir les turbots et les sols agités d'ultimes soubresauts. Les crabes et les homards en train de sécréter une mousse de bulles agglomérées. Les chiens de mer qui ont l'air de ressembler aux requins en beaucoup moins méchants. Elle part en éclaireuse sur l'herbe rase qui s'étend au pied des falaises. Elle se détache du groupe et prend de la distance. Ici, il n'y a ni feu, ni bonshommes rouges ou verts à observer avant de traverser. On n'est pas tenu de donner la main ni d'écouter les injonctions des adultes stressés. Elle se met à courir en écartant les bras. Elle part en ligne droite. Elle n'a pas peur, absolument pas peur. Elle ne peut déjà plus entendre les voix des parents qui veillent à garder dans leur champ de vision. Bientôt, le vent ajoute encore de la distance entre eux. Il avale leurs paroles et siffle à ses oreilles. Pour la rattraper maintenant, il faudrait se mettre en mouvement et courir comme un bœuf dans la terre molle avec les bottes en caoutchouc. Elle avance vite, légère, sans passer par cette phase de démarrage avec lente accélération. Elle découvre l'ivresse, la liberté et la distance. Elle connaît pour la première fois l'éloignement, une certaine solitude, une expérience nouvelle. Les parents, quant à eux, redécouvrent cette impression dans un mélange de crainte et de lâcher-prise obligé. Ils comprennent qu'il est inutile de crier « Attends-nous », mais ils ne savent pas quoi dire d'autre. À cette distance, c'est la seule parole qui leur vient. Ils voient le ciel changeant, la Manche, les promeneurs. De toute façon, elle ne peut pas attendre. Elle continue sans les entendre.
À vous entendre, lire toute la première partie du livre. Ce que j'ai entendu, c'était qu'il y avait aussi, dans cette expérience de jeune mère, quelque chose qui, et pourtant c'est votre première expérience de jeune mère, mais comme s'il y avait quelque chose d'un déjà connu qui venait s'inscrire là. Et dans tout le travail que vous menez autour de, justement, ces scènes de vie ordinaire, un petit peu, ce réel, qu'il y avait pour vous quelque chose dans la vie ordinaire, ou dans cette expérience vieux comme le monde, et pourtant pas banale, quelque chose qui était comme un peu construit, factice, un peu faux, parce que déjà connu, en définitive.
En effet, il y a un million de clichés qui arrivent aussi, mais y compris dans ce que les gens disent, mais clichés au sens universel, quoi. C'est-à-dire des paroles que les gens se disent pour partager cette expérience entre eux. Mais alors, c'est quelque chose qu'on anticipe et qu'assez vite on perçoit comme faisant partie de ce que les gens se disent quand il y a, quand on se promène avec un bébé par exemple dans la rue. C'est un peu les réflexions qui viennent se superposer au fur et à mesure. Mais en effet, avant d'avoir cet enfant, j'avais quand même aussi eu l'occasion d'observer autour de moi ce qui se passait dans ce genre de situation. Donc c'est pas non plus une découverte, mais le fait de vivre l'expérience incarne toutes ces réflexions de manière et ça c'est toujours cette utilisation du cliché que j'aime bien faire, c'est-à-dire à la fois le tourner un peu en dérision, l'éclairer un peu différemment, essayer de révéler son être cliché, et en même temps l'accepter comme un outil de communication avec mes semblables. Donc il y a à la fois l'idée de quelque chose qui est usé, qu'on répète à chaque fois, auquel on n'échappe pas, et puis en même temps une maison qui nous abrite, quoi, enfin, qui nous permet d'être ensemble avec des gens qu'on croise dans la rue, des anonymes, des inconnus.
C'est-à-dire quelque chose de vrai en même temps.
Oui, bien sûr, c'est quelque chose de profondément vrai. Enfin, cette phrase de « ça va trop vite », c'est presque, c'est affreusement vrai, mais en même temps, on n'y échappe pas. Enfin, d'ailleurs, ça s'applique à la vie en général, mais...
Ce livre aussi vous permet de pouvoir naviguer sur des temps différents, le présent, mais aussi le passé et le futur. Le passé parce que c'est l'occasion pour vous de retomber dans votre propre enfance. Le futur parce que c'est qu'est-ce que va devenir ma fille, et donc il y a la projection dans le futur. Alors ça, c'est assez intéressant, la manière dont vous pouvez circuler entre le passé et le présent jusqu'à ce qu'il y ait superposition entre la vie de votre fille et votre expérience, vous, d'enfant.
Ben oui, en fait, l'envie d'écrire ce texte est vraiment arrivée au moment du retour en taxi. Et, je sais pas comment dire, vraiment j'avais l'impression de redécouvrir ce paysage familier. Donc il y avait une étrange superposition du présent intense, de quelque chose qu'on vit quand on est très jeune et qu'on part pour la première fois seul à l'étranger, espèce d'exaltation comme ça, donc un moment de présent assez fulgurant, et en même temps d'être déjà dans la projection aussi d'un futur, parce que c'était aussi la projection de ce paysage que va découvrir cet enfant, etc. Et évidemment, c'est un miroir vers sa propre enfance. Enfin, et là aussi, j'avais beau avoir entendu mes parents me dire « tu verras », etc. Bon, c'est tout d'un coup, l'image se met à coïncider avec... avec l'expérience, et du coup, en effet, ce passé qu'on ne peut pas, dont on est coupé, qu'on ne peut pas imaginer, parce que fatalement, on arrive après ses parents, et donc on ne peut pas savoir ce qu'ils ont vécu, etc. Il y a quand même un petit reflet de leur passé à eux, qui nous atteint à ce moment-là. Enfin, voilà. Et donc j'ai eu l'impression, enfin, presque, de faire un lien entre ces différents temps à ce moment-là aussi, parce que bon, enfin, voilà, c'est.
Et ce paysage que va bientôt découvrir l'enfant, en fait, vous êtes la première à le redécouvrir, ce paysage.
Oui.
En somme, là, il y a double naissance, où il y a une renaissance.
Oui, complètement. Mais il y a aussi cette chose étrange sur justement le passé et le futur, c'est qu'on sait, quand on a un enfant petit, enfin un nouveau-né, que les trois premières années, en gros, qui sont celles du livre, jusqu'au moment où elle commence à parler, surtout à courir dans la campagne, sont des moments dont on ne se souvient pas, en fait. Donc, c'est des moments qui, de mon côté de parent, étaient très... mémorables. Et en fait, je savais qu'il y avait une sorte d'amnésie qui allait se superposer en fait à toutes ces années-là, et que avant l'arrivée de la parole, alors je ne sais pas si c'est seulement lié à ça, mais ça allait être effacé ou balayé dans une zone. Voilà, on ne sait pas ce qu'on fait de ces premiers souvenirs archaïques. Voilà. Mais pardon, j'ai
non, non, mais je disais renaissance aussi parce que monde ouais. perdu pour vous aussi.
Oui, bien sûr. Bah oui, oui, forcément. On ne peut que constater le fait de franchir un autre cap, oui.
Est-ce que vous l'avez fait, ce musée des cailloux ?
Je ne l'ai pas fait, non, mais j'ai quand même un certain nombre de cailloux à la maison qui sont en réserve, on va dire. C'est comme si c'était en attente de classement. Alors, je ne sais plus où ils ont été ramassés. Mais il y a quelques cailloux, des marrons, des pommes de pin, donc voilà, qui se promènent comme ça. Bon, quelquefois, au bout d'un moment, je les jette parce que bon, voilà. Mais je, quand même, je reste attachée à certains cailloux dont j'ai oublié la provenance. C'est un autre passage, en effet, du livre. Mais parce que ça me faisait aussi penser à... C'était presque proche d'une possible action artistique, en fait, une sorte de performance qui consisterait à prélever un morceau géologique à un endroit et puis de le déposer ailleurs et d'être seul à le savoir, mais de faire une sorte de relevé où le public est censé nous croire sur parole, où on dit, voilà, j'ai transposé un morceau de Picardie en Normandie ou je ne sais quoi. Donc il y avait cette idée aussi d'avoir toujours au fond du sac à main des cailloux ramassés par cet enfant le long du chemin à la campagne, et puis de les garder pendant un petit moment, et puis un jour de finir par m'en débarrasser, en effet ailleurs, ou parfois sur le moment parce que ça pèse un peu trop lourd. Mais
ce livre-là, c'est aussi un exercice qui est partagé, enfin, j'imagine, moi je ne suis pas parent, mais qui je crois est partagé par beaucoup de parents, qui est d'écrire un petit peu la vie de son enfant, ou de le photographier, d'en faire un album et quelque chose comme ça. Donc je voulais rapprocher ce geste-là que vous faites, qui est finalement un geste très populaire, de aussi votre passion pour la carte postale ou les photos, les photographies populaires. Quelques mots sur voilà, cet amour de l'art populaire dans votre travail.
Alors en fait, mon goût pour les cartes postales est pour moi un petit peu différent, mais en même temps rejoint évidemment ce dont on est en train de parler, puisque j'ai une prédilection certaine pour les cartes postales des années 70, qui évidemment me rappellent mon enfance, pour toutes ces salles à manger d'hôtels vides, ces lieux qui venaient d'être construits, des villes nouvelles, etc., des esplanades, des centres de vacances, flambant neufs à l'époque, etc. Donc je collectionne, disons que j'accumule, on va dire, au fur et à mesure, des cartes postales comme ça, de lieux, principalement de villégiature, mais pas seulement. Et en effet, dans cet objet qui est un peu en voie de disparition, il y a l'idée de une vue standard. Enfin, il y a quelque chose d'un peu standard au sens, finalement, c'est ça qu'on photographie, parce que c'est ça qui est intéressant à photographier, et on se centralise sur l'objet principal. Enfin voilà, il n'y a pas de hors-champ. En général, une carte postale, elle est là pour montrer ce qu'il y a à voir, quoi. Et dans les albums d'enfance ou de famille, il y a aussi souvent des photos de vacances, des moments heureux. Donc ça rejoint cette grammaire du cliché. J'essaie de trouver un autre mot que cliché parce que ça peut avoir une connotation un peu négative.
Grammaire mais du déjà là.
Du déjà là et du codifié en fait, surtout c'est ça, du codifié. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on pourrait comparer des albums de famille de tout le monde, enfin nous tous, là, ce soir par exemple, et puis on trouverait forcément une grammaire commune, une grammaire visuelle. C'est d'ailleurs l'objet de plusieurs travaux justement d'artistes, notamment documentation Céline Duval, qui fait des publications très belles. En fait, elle cherche, c'est donc une artiste, s'appelle Céline Duval, et qui compile des images amateurs trouvées au puce et qui les assemble par famille d'images.
Et vous, c'est cette codification-là qui vous intéresse, justement, le fait que ces images ou que ces textes, ces gestes soient codifiés? C'est cela qui vous intéresse?
En fait, ce qui m'intéresse, je crois, c'est une certaine répétition. Enfin, il y a vraiment cette idée de l'obsession de la répétition, je crois, dans mon travail, du fait d'être agi par des paroles, par des choses, d'être habité par des réflexions, par des phrases qui nous ont précédés, qui vont nous survivre, enfin qui vont continuer après nous, et qu'on s'approprie en même temps. C'est-à-dire que des choses qui ne sont pas des trouvailles personnelles, mais dans lesquelles on croit profondément au moment de les dire, parce qu'elles sont justes, en fait. Donc il y a cette idée, en effet, de... Mais enfin, dans le cadre de troisième personne, sur l'expérience d'être un parent, il y a aussi... Enfin, en ce qui me concerne, la troisième personne, c'est évidemment l'enfant, mais c'est aussi la mère se voyant être mère. Enfin, c'est une sorte d'ombre en fait derrière l'épaule qui reste une sorte de regard externe, bizarrement. Enfin, à la fois, il y a quelque chose de, d'animal, de viscéral, tout ce qu'on voudra, et en même temps, justement une telle sidération du fait d'être en train de vivre ça qu'il y a quand même une sorte de lanterne un peu extérieure qui reste extérieure en train d'observer ça et de se dire mais c'est incroyable justement sur cette ce besoin de toucher comme ça et de constater une chose quand même étonnante. Donc
mais est-ce que c'est pas justement le propre des choses qui sont répétées justement? Oui. Que ça produit une forme d'extériorité.
Bien sûr.
On s'aperçoit en train de le répéter, d'une certaine manière, en train de le rejouer.
Oui, on se voit jouant un rôle, en fait.
Oui.
Et s'apercevant, en effet, que le rôle de nos parents, qu'on a toujours vu comme des parents, n'était qu'une improvisation totale, en fait. Enfin, que chacun essaye de rentrer au mieux dans son personnage et dans son costume de parent, mais que en réalité c'est pas un être comment dire absolu, c'est pas
on touche à la performance du genre là en fait.
Oui, c'est ça, oui, il y a quelque chose comme ça.
Et alors les enfants, ils sont de droite?
En ce qui concerne les jouets, les objets, etc., oui, je trouve que quelque chose comme ça, oui. Ils ne sont pas très partageurs, ça c'est vrai.
Vous avez fait une série de films avec des enfants.
Oui.
Et vous avez fait les films avec des lycéens, un film en tout cas avec des lycéens, à qui vous posez la question s'ils ont, entre autres, s'ils ont un modèle ou des modèles.
Oui.
Alors je me permets de vous retourner la question, après tout, puisque vous l'avez posée aux lycéens, on peut vous la poser. Est-ce que vous avez un modèle?
Moi, j'ai de multiples modèles, mais en fait, c'est terrible cette question des modèles, parce que plus le temps passe et plus les modèles restent, et plus on a l'impression de n'avoir que les deux, trois mêmes modèles, en fait. Parce que c'est comme si j'avais lu que deux livres et que je cite toujours, et c'est toujours les mêmes en fait qui reviennent, et pareil pour les films.
L'éternelle répétition.
Mais voilà, disons que parmi les artistes qui m'ont le plus fortement marqué, il y Il y a Georges Perec parmi les écrivains, Chantal Akerman, Jean Eustache, des gens comme ça.
Je disais en introduction que vous avez entamé une collection de souvenirs, mais une vraie collection de souvenirs. Enfin, je veux dire, il y a ce film Chamonix en 2008, c'est une collection de souvenirs. Et puis ensuite, vous avez continué à recueillir des souvenirs.
Ben, en fait, je fais ça depuis un petit moment parce que ça m'a toujours intéressée, en fait. Pourquoi on se souvient de certaines choses ? C'est aussi présent dans mes livres. En fait, il y a cette confiance en l'arbitraire du tri et de l'effacement de certains souvenirs et de ce que la mémoire, à un moment donné, sélectionne. Et on ne sait pas très bien pourquoi, parfois. Donc, en 2001, j'avais commencé une série en vidéo où je proposais à des gens de raconter un souvenir. Donc, il y avait l'idée de prendre la première histoire qui leur venait à l'esprit. Et Chamonix est en effet un court-métrage qui repose sur ce principe, sauf que c'est mis en scène. En fait, c'était des gens qui racontaient une histoire qui ne leur était pas forcément arrivée. Et en fait, j'ai continué un peu dans différents pays, au gré des résidences ou des projets ou des propositions, à travailler souvent sur ce principe-là, ce que j'ai fait aussi d'une certaine manière avec les lycéens. Et en fait, depuis ce moment-là, je me rends compte que ça trace une sorte de, en pointillé, en fait, de série, enfin, d'une sorte de série à épisodes où des gens racontent dans un pays ou un autre, soit des souvenirs, soit une anecdote liée à un thème particulier. Là, je viens de faire un film un peu sur ce principe, sur les vêtements, en fait.
Sur les vêtements.
Pour un salon de la mode. Et donc, j'ai demandé à des gens de raconter des souvenirs liés à des vêtements. Mais voilà, c'était. En fait, ce qui était intéressant, c'était. Enfin, ce que j'ai gardé dans le film, c'est souvent des histoires de vêtements que des gens adorent, mais qu'ils n'arrivent pas à porter. Donc, et accompagné de la stratégie pour essayer de porter tel ou tel vêtement. Enfin, par exemple, je vais en citer deux, c'est. Un ami critique de cinéma et écrivain, Noël Herbe, qui adore les collants. Mais évidemment, c'est compliqué pour un homme de porter des collants. Donc, il raconte que dans les années 80, il s'habillait en rocker parce que les rockers étaient les seuls à avoir des jeans moulants. Puis que par la suite, il allait dans les gymnast clubs parce que là aussi, les gens portaient du lycra. Donc, il pouvait se lâcher. Il mettait des couleurs extrêmement bariolées, très suggestives, etc. Et un autre qui adore la fourrure. Et pareil, qui disait, pour un homme, porter de la fourrure, c'est vraiment très connoté. Donc, j'ai imaginé qu'à un moment donné, je pourrais peut-être partir au ski, que les gens n'y prêteraient moins attention. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est pour moi l'occasion. En fait, ce genre de vidéo ou de film, c'est... Enfin, là, en l'occurrence, c'était une sorte de commande, enfin, de proposition extérieure, produite par un salon de la mode. Mais en fait... Jamais je n'aurais l'idée d'aller interroger des gens ou des amis sur une histoire comme ça, très précise, de prendre le temps. Mais parce qu'il y a le dispositif de la caméra et parce que tout d'un coup, on est en train de faire un sujet là-dessus, ça canalise vers ces histoires-là et cette parole, quoi. Du coup, c'est une surprise aussi pour moi en général. Mais...
Merci beaucoup, Valérie et Emergène. Merci pour
merci à
cette
vous,
lecture.
Merci à vous.
C'était un mercredi de Montevideo avec Valérie Emergène, qui publie aux éditions POL, troisième personne.